14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Ce crime trouve sa spécificité dans ce complot criminel qui regroupe tant la famille de Jérôme Gaillard que des proches qu'il peut avoir dans la communauté géorgienne pour exécuter un contrat tendant à éliminer Magali Blandin.
Bonjour, Jérôme Gaillard a-t-il cru que la vraie vie pouvait être un film et que le scénario qu'il avait écrit un jour serait celui du crime parfait? Depuis le mois de mars 2021, cet homme est écroué, suspecté d'avoir tué son épouse Magali, qui avait décidé de le quitter. Mais ce qui aurait pu être la sinistre vengeance d'un mari violent va bien au-delà. Au fil des semaines, les investigations ont ainsi révélé un plan criminel hors du commun, sorti de la tête de Jérôme Gaillard est destinée à brouiller les pistes. L'affaire va prendre l'allure d'un complot familial dans une ferme de Bretagne sur fond de tueurs à gages recrutés pour accomplir la basse besogne. Un plan bancal, même si Magali Blandin a payé de sa vie cette équipée sauvage. Comment un mari jaloux a-t-il décidé de l'exécution de son épouse? Quelle est la distribution des rôles de cette étrange affaire qui est loin d'être terminée? Nos invités vont répondre à ces questions.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Magali Blandin, cette femme et mère de famille, disparaît subitement à l'hiver 2021 dans une petite commune de Bretagne. Ces derniers temps, on la disait inquiète et un peu déboussolée. Ce vendredi 12 février 2021, Magali Blandin n'est pas devant le portail de l'école près de Rennes où sont scolarisés ses quatre enfants âgés de 4, 8, 13 et 15 ans. Ils ont passé la semaine chez leur père et c'est au tour de la maman de les récupérer, sans doute un contretemps. L'école essaie de la joindre sur son portable mais celui-ci ne répond pas. À son travail à Rennes où elle est éducatrice spécialisée, la responsable fait aussitôt part de son inquiétude. Elle indique que Magali ne s'est pas présentée ce matin au bureau et qu'elle n'a donné aucune nouvelle. La responsable signale la disparition aux autorités. Le groupement de gendarmerie d'Ille et Vilaine est saisi et entreprend les premières vérifications. Une équipe d'enquêteurs se rend aussitôt à Montfort-sur-Meux, petite commune à une demi-heure de route de Rennes. Magali Blandin, 42 ans, il loue depuis 5 mois un appartement dans une jolie résidence. Elle a emménagé après s'être séparée de son mari Jérôme Gaillard, 45 ans. L'appartement est vide. Aucune trace de désordre. Elle ne travaillait pas la veille, jeudi 11 février. Le matin, elle a téléphoné à son psychologue pour confirmer un rendez-vous à 10h, mais elle ne s'y est pas rendue. Elle a aussi adressé à son mari un brouillon de mail pour la garde du futur week-end. Son téléphone cesse d'émettre peu après, dans une zone de bocage au nord de la commune. Un paysage alors recouvert par 10 cm de neige. Un appel à témoins est lancé pour retrouver Magali Blandin, cheveux châtains clairs, 1m50, sportive, portant au moment de sa disparition un manteau trois quarts de couleur noire et des bottines marron. Des battues sont organisées dans la campagne avoisinante, 10 km de cours d'eau, d'étangs et de mares sondées. Les autorités n'excluent pas une mauvaise rencontre. Elles craignent surtout que Magali ait commis un geste désespéré. Des témoignages décrivent une femme dans la détresse à cause de la procédure de divorce. Elle craignait de perdre la garde de ses enfants qui auraient émis le vœu d'aller vivre chez leur père. Séparation intervenue dans un contexte chaotique. Le 3 septembre 2020, Magali Blandin avait déposé plainte contre son mari pour violence. Elle avait décrit une dispute intervenue au sujet d'un compte en banque qu'elle venait d'ouvrir pour elle. Jérôme, son mari, l'aurait fait tomber sur le sol. Lors de sa déposition, elle avait évoqué des violences ponctuelles, un climat de dénigrement, d'injures. Le mari avait expliqué avoir lui aussi reçu des coups de son épouse, ce que celle-ci avait admis. La plainte avait été classée. Magali avait alors décidé de quitter le domicile conjugal, engager une procédure de divorce. Le 8 mars, le juge aux affaires familiales devait statuer sur les modalités de garde et de pension alimentaire. Les gendarmes s'intéressent évidemment à ce contexte familial troublé et donc au mari, Jérôme Gaillard. L'homme est officiellement sans emploi. Il vit dans un corps de ferme, dans un coin perdu de la campagne, à Montauban de Bretagne. Il gagne un peu d'argent en louant une partie du bâtiment, garage et hangar à des particuliers. Il achète aussi et revend quelques voitures d'occasion. Il avait rencontré Magali en 1996, alors qu'il était en BTS d'informatique et le couple ne s'était jamais séparé jusque-là. Jérôme Gaillard Gaillard dit ne pas savoir où est partie Magali. Le jeudi 11 février au matin, moment présumé de la disparition, il indique qu'il était chez ses parents et a passé la journée avec eux. La téléphonie confirme ses déclarations. Un mari qui n'est donc pas suspect à ce moment-là. On va voir dans le chapitre suivant comment tout va être bouleversé avec parfois d'incroyables révélations. Bonjour Vincent Gautronneau.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste au Parisien aujourd'hui en France, journal avec lequel nous sommes en partenariat aujourd'hui pour cette affaire Magali Blandin. Vincent Gautronneau, vous connaissez parfaitement cette affaire, vous l'avez suivie. Pourquoi les gendarmes, finalement, ils prennent si vite au sérieux cette disparition qui pourrait être, c'est une disparition d'une adulte, qui pourrait être des plus banales?
Pour les gendarmes, la piste privilégiée au départ, il faut le reconnaître, c'est le suicide. Ils savent que Magali Blandin risque de perdre la garde de ses enfants dans les jours qui viennent, que ses deux aînés ont demandé à vivre avec leur père, et que c'est une femme qui est en difficulté, qui s'est séparée. Très vite, malgré tout, en fait, ils ont fait tous les cours d'eau, ils ont fait tous les endroits où elle aurait pu aller mettre fin à ses jours, et ils ne trouvent rien. Elle n'a pas acheté de médicaments, elle n'a pas laissé de messages inquiétant, elle a même appelé son psychologue, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, pour confirmer ce rendez-vous. Donc, on n'est pas dans
rien qui ne laisse présager une disparition.
On n'est pas dans la logique d'une femme qui va mettre fin à ses jours.
Brutal. Alors, vous l'avez dit, il y a des recherches intensives et très vite qui sont menées dans ce secteur. À quoi ça ressemble ce coin de campagne?
C'est Montfort-sur-Meuse, c'est une commune de l'agglomération rennaise. On est à une vingtaine de kilomètres de Rennes. C'est une commune qui doit faire 7-8 000 habitants. C'est une petite commune, mais où très vite on est dans des zones de campagne qui est traversée par une rivière. Cette rivière va être sondée assez longuement par les gendarmes notamment.
Qui est Magali Blandin? On la décrit là, à ce moment-là, de sa vie, comme une femme un peu fragile, et c'est normal, elle est en pleine procédure de divorce, c'est un peu compliqué pour elle, mais elle n'a jamais fait parler d'elle, etc.
Non, c'est une femme qui a eu 4 enfants, qui est heureuse en ménage jusqu'à sa séparation en septembre 2020. C'est une maman comblée, c'est une éducatrice qui est appréciée dans son travail. Ma collègue qui avait été sur place avait rencontré certaines de ses collègues qui parlaient d'une femme charmante, à poigne dans son travail. On va le découvrir au cours de l'enquête, un petit peu moins dans sa vie personnelle où elle était sous l'emprise de Jérôme Gaillard.
Alors justement, cette emprise, il faut nous en parler, Vincent Gautronneau, parce que il y a évidemment cette plainte pour violence conjugale, plainte récente, c'est un couple qui est en crise, un couple qui va mal. Une plainte qui est assez directe, hein, elle décrit elle décrit un homme qui est violent, mais depuis longtemps.
Elle décrit une scène de violence qui survient début du mois de septembre 2020, elle explique qu'elle est assise sur un banc chez eux et que Jérôme Gaillard va soulever ce banc et la faire tomber. Elle va donc déposer plainte dans ce contexte de séparation et à ce moment-là, elle met en avant des violences, mais j'ai presque envie de dire des violences réciproques, parce qu'elle aussi reconnaît très vite pouvoir se montrer violente, pouvoir exploser, pouvoir avoir des coups de nerf et frapper parfois Jérôme Gaillard. Elle le reconnaît très rapidement aux gendarmes. Le procureur de Rennes avait d'ailleurs dit que c'est pour ça que cette plainte avait été classée, parce qu'on était plutôt dans un contexte de violence réciproque que de violence conjugale.
C'est ça, et même si ensuite on va dire que finalement cette plainte elle aurait pas dû être classée, etc. Alors on refait toujours un peu l'histoire a posteriori.
En fait, ce qu'on découvre avec l'instruction, c'est que Magali Blandin, c'est une femme qui certes n'est pas une femme battue au sens où on l'entend qui prend des coups tous les jours, mais c'est une femme qui est brimée,
qui est humiliée
très fréquemment et qui est sans aucun doute sous l'emprise et la victime d'une violence psychologique en tout cas.
Alors cette emprise, c'est un homme qui, c'est son mari, Jérôme Gaillard. Alors, on dit tout de suite qu'il n'est pas encore suspect, si je puis dire. Hein. Pour l'instant, on est au tout début de l'enquête. Dites-nous en quelques mots qui est cet homme. Il habite dans un coin de campagne.
Oui, Jérôme Gaillard, c'est quelqu'un qui a vécu toute sa vie pratiquement dans la ville où ils ont vécu avec Magali Blandin. Il avait racheté la ferme de ses parents. Il vivait avec Magali Blandin dans la ferme de ses parents. Il s'était rencontré avec Magali en boîte de nuit, une rencontre assez classique. Très vite, ils avaient eu un enfant, puis deux, puis trois, puis quatre.
Il y a des années de ça. Hein,
oui, il y a plusieurs années. Ouais. C'était un couple normal. L'aspérité qu'on peut voir chez Jérôme Gaillard, c'est notamment sur le plan professionnel, où pendant des années, il a eu des difficultés à conserver un emploi, à trouver un emploi
trouver
stable
voie,
qui lui
finalement.
Correspondait. D'où ses rêves, comme vous l'avez dit, de scénariste,
on va y venir en télévision. À ce fameux passé de scénariste, mais effectivement, il est un peu laissé à lui-même, finalement.
Au moment de la disparition de Magali, c'est effectivement quelqu'un qui travaille plus, qui loue quelques box à des Géorgiens qui entreposent des voitures, qui retapent quelques voitures et les revend.
Presque marginal, j'ai envie de dire.
À la limite du marginal, ouais. Effectivement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans le couple, avant la disparition de Magali Blandin et avant que Magali Blandin décide de le quitter, c'est elle qui ramène l'argent du couple.
C'est elle qui fait tourner la marmite, qui fait bouillir la marmite, comme on dit. Encore un mot, Vincent Gautronneau, il y a des témoignages qui diront quand Magali a disparu, à ce moment-là, il avait beaucoup maigri. C'est quelqu'un qui avait changé d'apparence physique.
Effectivement.
C'est vrai ou faux ?
C'est ce qui s'est dit, effectivement, assez rapidement. On peut le mettre sous le coup de la dépression qu'il traversait, effectivement, à ce moment-là.
Un coup de théâtre va faire s'effondrer comme un château de cartes le scénario de la simple disparition. L'affaire va alors se déplacer sur un autre terrain, celui d'un meurtre pas vraiment ordinaire. Le vendredi 19 février 2021, les gendarmes lancent de nouvelles recherches dans le secteur de Montfort-sur-Meux, la commune où vivait Magali Blandin. Un secteur de campagne de taillis doit être exploré. Ce même jour, Jérôme Gaillard, le mari, dépose une plainte pour violation de domicile et cambriolage. Un intrus se serait introduit dans sa maison à Montauban de Bretagne, mais il ne désigne pas la nature des objets qui lui auraient été dérobés. 7 jours plus tard, 25 février, le même époux se présente devant le juge qui instruit le dossier de la disparition. Il dit ne pas pouvoir expliquer l'absence de sa femme, mais affirme être l'objet de menaces. Des personnes tenteraient de lui extorquer de l'argent, pas moins de 15 000 euros. Curieux propos. Le juge et le procureur de Rennes, Philippe Astruc, veulent en avoir le cœur net. Les auteurs de ce chantage sont identifiés, des Géorgiens. L'un d'eux vient de sortir de prison. Jérôme Gaillard leur louait des garages. 5 personnes, 4 hommes et une femme sont interpellés par le GIGN, suspectés d'extorsion de fonds en bande organisée. Ils évoquent une sombre histoire de dette. Rien à voir, disent-ils, avec l'affaire de la disparition. Même si celle-ci, selon eux, ne serait pas tout à fait volontaire. Jeudi 18 mars, Jérôme Gaillard est interpellé dans la matinée et placé en garde à vue. Il ne tient pas longtemps face aux enquêteurs et finit par craquer. Il explique n'avoir pas supporté la rupture avec Magali et son départ de la maison. Il aurait essayé de la retenir, mais en vain. Fin novembre, lors d'un rendez-vous chez le conseiller conjugal, il a compris que tout était fini. Il a alors confié ses malheurs à Georgie, 31 ans, un ami géorgien, à qui il a vendu du matériel agricole. Au fil de la discussion, ce dernier lui aurait proposé de s'occuper de sa femme, c'est-à-dire la faire disparaître, moyennant une somme de 20 000 euros. Jérôme Gaillard dit avoir accepté la proposition dans un accès de désespoir. Il verse 8 000 euros, puis 2 fois 6 000 euros. Les semaines s'écoulent, mais aucune suite donnée à ce fameux contrat. Le mari explique alors que ses coups de fil à Georgie sont restés sans réponse. Il aurait alors décidé d'éliminer lui-même Magali. Au matin du jeudi 11 février, il se rend chez elle. Alors qu'elle sort, il la frappe à la tête avec une batte de baseball. 2 coups violents qui l'auraient tué. Il laisse le corps dans l'appartement, va déjeuner avec ses parents et brûle la batte de baseball. Il va ensuite aller récupérer ses enfants à l'école comme si de rien n'était. Le soir, il revient sur le lieu de son crime, nettoie le sol et emporte le corps. Vendredi 19 mars, à l'issue d'une 4e audition en garde à vue, Jérôme Gaillard se dit prêt à conduire les enquêteurs dans la forêt de Bois-Gervilly, proche de son domicile. C'est là qu'il a transporté la dépouille de son épouse dans une Opel Astra, véhicule qu'il a ensuite demandé à un voisin de détruire pour l'envoyer à la casse. Il a creusé un trou qu'il a tapissé de chaux vives, y a placé le corps enroulé dans un duvet, avant de verser à nouveau un sac de chaux vives et de recouvrir la tombe improvisée de pelletées de terre, de neige et de branchages. Une scène féerique et horrifique, témoignera le mari, ajoutant être rentré chez lui à 6 heures du matin, crever, mais en paix, selon ses mots. Et les surprises dans cette histoire ne sont pas terminées. On va voir dans un chapitre suivant également la piste familiale qui va se dessiner. Mais cette surprise-là, cette histoire de contrat, c'est déjà une surprise de taille avec cette histoire des Géorgiens. Bonjour Maître Antoine Horry.
Bonjour.
Vous êtes l'avocat de l'un de ces Géorgiens qui est mis en examen dans cette histoire, un certain Guillot. Est-ce que vous pouvez nous dire, Maître Horry, comment cet homme et comment cette bande de Géorgiens, comment ces hommes apparaissent dans le dossier ?
Alors déjà, Jérôme Gaillard les connaît parce que, comme vous l'avez indiqué, il loue des box et des appartements depuis un certain temps à des personnes diverses, dont certaines se trouvaient de nationalité géorgienne. Et c'est comme cela qu'il connaît mon client. Il lui louait un appartement il y a quelques années. Le moment où ils apparaissent dans le dossier, entre guillemets, où manifestement l'enquête se dirige vers eux, c'est comme vous l'avez indiqué il y a quelques minutes, lorsque Jérôme Gaillard reçoit des lettres à son domicile et qui c'est l'objet d'un chantage.
Il faut préciser, Maître Horry, qu'il va y avoir aussi une clé USB qui va être envoyée à l'intéressé où il a été enregistré. Racontez-nous cette scène, parce que là, le chantage va commencer comme ça. Les Géorgiens l'ont enregistré alors qu'il disait « j'ai envie que ma femme disparaisse ».
C'est ça, c'est un enregistrement, mais qui a été réalisé plusieurs mois plus tôt, ça je tiens à le préciser.
Ah oui, d'accord, donc c'est un enregistrement ancien. Et qu'est-ce qu'il dit sous cet enregistrement, Jérôme Gaillard ?
Oui, il fait part de cette intention, effectivement, de mettre un terme au jour de son épouse.
Et à partir de là, les Géorgiens vont se dire, peut-être il y a quelqu'un qui est intéressant, à qui on va pouvoir retirer de l'argent, on va le faire chanter, c'est ça ?
En tout cas, les Géorgiens n'agissent, et principalement la personne que je défends, que postérieurement à la disparition de Magali Blandin. C'est-à-dire qu'au moment où cet enregistrement est effectué, il n'y a absolument aucun profit qui est tiré de cet enregistrement à ce stade.
Est-ce qu'on peut penser, Maître, que cette équipe de Géorgiens qui se connaît serait allée au bout de la démonstration, ou s'agissait-il simplement de se faire un petit peu d'argent facile ? Est-ce qu'il serait passé à l'acte ?
Ah mais alors, moi déjà, mon client conteste fermement avoir été sollicité pour un contrat de tuer. Et ce que vous avez rappelé dans le récit tout à l'heure, ce sont les propos de Jérôme Gaillard.
C'est ça.
Moi, sur ce point, mon client conteste avoir été sollicité pour un contrat de tuer. Donc évidemment, le passage à l'acte, déjà, puisqu'il conteste avoir été sollicité pour ça, il ne l'a jamais envisagé, absolument jamais.
Absolument jamais. Donc ça, c'est clair, il y avait peut-être un coût financier à faire, mais en tout cas, il n'y avait pas volonté d'aller au bout de cette démarche criminelle.
À supposer qu'elle ait existé.
À supposer qu'elle ait existé, mais ça, ça sera parole contre parole, et l'enquête est encore loin d'être terminée. Vincent Gautronneau, on entend Maître Antoine Horry, et c'est très intéressant ce que raconte l'avocat d'un de ces Géorgiens, c'est que finalement, ce projet criminel, il est ancien, il remonte des mois auparavant. C'est quelque chose qui était probablement dans la tête de l'intéressé depuis un bon moment.
En fait, Jérôme Gaillard, il explique que quand il sort d'un rendez-vous chez un conseiller conjugal, il comprend qu'il n'arrivera pas à récupérer sa femme et que c'est à ce moment-là, donc on est au mois de novembre, que germe l'idée de faire disparaître sa femme. Ce qu'il explique aussi ensuite, c'est qu'il va pleurer comme un bébé, comme il dit, dans les bras de son ami Géorgien Giot, et que celui-là lui fait comprendre des choses. La question qui se pose, c'est est-ce que les Géorgiens avaient réellement l'intention de tuer Magali Blandin ?
C'est une grande question. Ouais.
Objectivement, il n'y a pas vraiment dans le dossier d'éléments qui le démontrent. Que les Géorgiens aient sûrement vu la potentialité
d'avoir un pigeon finalement, de
prendre 20 000 euros à Jérôme Gaillard en lui faisant croire des choses, c'est possible. Il n'y a objectivement pas d'acte préparatoire pour tuer Magali Blandin de la part des Géorgiens. Et d'ailleurs, ce qui est flagrant, c'est qu'à un moment, les Géorgiens, alors que Jérôme Gaillard a versé l'argent, ne lui répondent plus au téléphone.
Qu'est-ce que ça signifie, ça, Maître Horry, selon vous, le fait qu'effectivement, dès que l'argent est versé, on disparaît dans la nature ?
Écoutez, alors moi, sur cet argent versé, mon client a une autre version des faits. Mais à tout le moins, ce que ça montre, c'est que si jamais il y a eu effectivement un contrat passé entre Gaillard et les Géorgiens, le mobile et l'intérêt de mon client, étaient purement pécuniaires. À supposer, encore une fois, que ce soit vrai ce qu'il dit.
Et ils sont combien aujourd'hui écroués, les Géorgiens ?
Alors, il y a écroué, il y en a trois, et voilà. Et ce ne sont pas des personnes, vous avez parlé tout à l'heure d'une bande, il y en a deux qui se connaissent effectivement, mais après, c'est des gens qui se connaissent dans le cadre de la communauté. Mais ce ne sont pas des personnes qui agissent de manière concertée. En tout cas, ce n'est pas du tout ce qui est établi par le dossier à ce stade.
Dont l'un sortait de prison, c'est ça, hein ?
Effectivement.
Hein ? Donc, avec un casier judiciaire, déjà, je suppose, bien fourni.
Oui, fourni.
Bien fourni. Apparemment, donc, il a tout imaginé, notre Jérôme Gaillard. Le corps de Magali, les constatations des légistes confirment que c'est bien lui qui a tué, et selon la manière dont il a expliqué. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Il y a un petit doute qui naît de son dernier interrogatoire. Visiblement, pendant la garde à vue, il a évoqué l'idée qu'il avait frappé Magali Blandin à la tête et qu'ensuite il l'avait étranglée. Ça n'a pas été acté sur le PV de garde à vue. En revanche, devant le juge d'instruction début septembre, il a redit cette version en expliquant qu'il ne voulait pas que Magali Blandin souffre. Il parle d'un étranglement après un premier coup pour l'assommer.
Ah oui, et on ne retrouve pas cette trace d'étranglement. Les légistes n'ont pas de trace.
Ça, je n'ai pas cette information.
Et il faut savoir que le corps aussi a été dégradé l'emploi de la chaux vive.
Par la chaux, il n'a été retrouvé qu'on est à peu près un mois après sa disparition.
Et encore un mot, il y a cette parole qui est hallucinante que vous citez dans Le Parisien aujourd'hui en France, dans cette affaire, dans l'un de vos articles. Une scène féerique et horrifique, il dit. On a l'impression qu'il est dans un film ou dans un rêve.
En fait, au moment de sa garde à vue, on est en pleine nuit quand il avoue le crime et il dit aux gendarmes, bon allez, voilà, en substance, il leur dit, allez, venez, ça suffit, je vous emmène voir où j'ai enterré Magali. Et à ce moment-là, donc, les gendarmes commencent à creuser à l'endroit indiqué. Et effectivement, à ce moment-là, il se rappelle de la veille, quand il est venu, de quelques semaines avant, quand il est venu l'enterrer. Et il décrit une scène féerique, sous la lune. C'est assez étonnant.
Le juge et les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise dans l'affaire de la disparition et désormais du meurtre de Magali Blandin. La personnalité du mari va mettre au jour un homme qui, il y a longtemps, avait déjà imaginé un film où un homme tue sa femme. Les enquêteurs explorent la personnalité de Jérôme Gaillard, dénoncé comme un mari violent par son épouse ou encore par un ami du couple, comme un homme narcissique, manipulateur, capable de se mettre rapidement en colère. Jérôme Gaillard voulait manifestement briller, retenir l'attention. Il avait tout fait, tout vu. Magali n'avait qu'une chose à faire, obéir, ajoute cette connaissance. 13 ans avant la mort violente de son épouse, son mari rêvait de réussir dans le cinéma. En février 2008, il avait monté une société de production. Il avait pour projet le tournage d'un film baptisé en latin « Ego sum »,« Je suis », qui décrit un meurtre étrangement similaire à celui qu'il a perpétré. Il avait pour cela écrit un long script, 113 pages, avec des détails plus glaçants les uns que les autres. Un personnage principal, est-il mentionné, libre d'assouvir ses envies et ses fantasmes inavoués, laissant s'exprimer ses pulsions criminelles et destructrices. Un de ses crimes ressemble étrangement à la façon dont il dit avoir tué son épouse. Une fiction qui ne verra jamais le jour, mais qui ne laisse pas les enquêteurs indifférents. Malgré les aveux circonstanciés du mari et la série d'interpellations, le procureur de Rennes, Philippe Astruc, indique en cette fin mars 2021 que tous les éléments du puzzle ne sont pas encore réunis et que cette affaire laisse penser à un complot criminel. On est dans un homicide conjugal assez classique, avec cette notion de possession de l'autre, cette notion d'emprise, dit le magistrat. Jérôme Gaillard, à l'instar d'un mari violent, aurait tué pour interdire à son ex-épouse de voler de ses propres ailes. L'avocat des parents et de la sœur de la victime, maître William Pinault, souligne une velléité d'indépendance, une revendication de liberté pour Magali, qui s'est avérée insupportable à son mari, comme à tous ceux qui conçoivent leur conjoint comme un objet, dit-il. Vincent Gautronneau, vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, journaliste au Parisien aujourd'hui en France, journal avec lequel nous sommes partenaires pour cette histoire que nous racontons aujourd'hui. On verra dans le chapitre suivant un possible complot familial qui va se dessiner et qui va finalement être au cœur aussi de cette affaire. Un mot déjà sur ce scénario de film. Un homme qui rêve d'être réalisateur et qui écrit finalement, si j'ai envie de dire, le scénario de quelque chose qui va se passer.
Oui, c'est assez incroyable ce scénario tristement prémonitoire. Il raconte dans ce scénario un homme à la vie rangée, père de famille, qui le soir devient un véritable psychopathe tueur de femmes. Il y a notamment une scène qui est assez glaçante. Faut noter que ce scénario il a été découvert par les enquêteurs après l'arrestation de Jérôme Gaillard. Il y a une scène qui est évidemment très troublante dans ce scénario, c'est qu'il met en scène son héros. Tapis dans l'ombre, écrit-il, à attendre sa victime, donc sa femme, tapis dans l'ombre et lui sauter dessus quand elle sort chez elle.
C'est très troublant.
C'est exactement ce qu'il est suspecté d'avoir fait à Magali.
Exactement, un coup de batte de baseball. Exactement. Et lui dira, en plus, vous l'avez dit, vous me l'avez même révélé dans cette émission, il dira qu'il a étranglé, qu'il
en
a essayé.
En tout cas, c'est ce qu'il dit. Ouais.
Essayer de l'étrangler et sans résultat. Maître Antoine Horry, vous êtes l'un des avocats de l'un des Géorgiens qui sont mis en cause dans cette histoire, mis en examen. Un petit mot sur ce scénario, parce qu'on a l'impression que finalement l'intéressé, c'est le meurtrier, il s'est mis en scène et il pensait que sans doute ça arrivait comme ça dans la vraie vie et que finalement il suffisait d'embaucher quelqu'un pour tuer une personne.
Alors je peux pas vous dire exactement ce qui s'est dit là-dessus parce que il a pas été par ailleurs ça a pas beaucoup été évoqué pour l'instant. On sait que c'est un des éléments du dossier ça a été évoqué mais pas plus que ça, donc je pourrais pas vraiment vous dire quels étaient les sous-jacents et quelle était son idée finale quand il a écrit le scénario et quand il a mis en œuvre son projet, s'il faisait une référence implicite et personnel à ce scénario.
Oui, c'est ça, mais en tout cas, ça reste troublant. Hein. On a l'impression que.
Très troublant, oui.
Voilà, que Jérôme Gaillard, il est parti dans une dimension qui n'est pas vraiment réelle. Hein.
Ce qui est assez troublant, effectivement, et là-dessus, le lien avec les Géorgiens est assez intéressant, c'est que. Rien, sincèrement, dans le profil des Géorgiens actuellement mis en examen, que ce soit le client de Maître Horry ou les autres, n'a le profil d'un tueur. Ce sont pour certains des voleurs, peut-être des escrocs, mais ce ne sont pas des tueurs. Et on a l'impression que Jérôme Gaillard, à ce moment-là, en fait, il rencontre presque son seul ami, qui est un homme qui lui a loué un logement. Il est géorgien, il lui dit qu'il a un frère qui peut s'occuper de ça, un homme qu'il connaît en Russie, et il y croit.
C'est ça. Mais on n'est pas dans Matrix, hein, c'est
effectivement.
Évidemment. Le procureur parlait d'un puzzle incomplet. Les enquêteurs vont se pencher sur le rôle joué par les parents de Jérôme Gaillard. Ils pourraient avoir été au courant du projet criminel de leur fils et auraient même aidé à le financer. Le 20 mars 2021, au lendemain des aveux de Jérôme Gaillard, ses parents Jean et Monique, respectivement âgés de 75 et 72 ans, sont mis en examen pour complicité de meurtre et complicité de tentative de meurtre, placés en détention provisoire. Ils auraient été informés du projet criminel de leur fils, éliminer une épouse qui avait décidé de le quitter. Le jour du crime, Jérôme aurait confié son portable à son père. Il lui aurait ainsi demandé de passer des coups de fil et d'écrire des mails depuis sa maison de Montauban de Bretagne afin de faire croire qu'il était resté chez lui. Subterfuge qui avait fonctionné lors des premières constatations des enquêteurs. Les parents auraient également donné 50 000 euros à leur fils pour, disent-ils, financer son divorce. De l'argent qui servira en partie à rémunérer le fameux tueur géorgien embauché pour commettre le crime. Les septuagénaires, anciens éleveurs de vaches laitières, savaient-ils que cette somme était destinée à un contrat mortel ? Ils ont eu une réaction basique. Leur fils n'a pas de travail, il est en plein divorce et il a 4 enfants à nourrir, proteste maître Gwendoline Ténier, avocate de la mère. Le 22 juillet, après 4 mois de détention provisoire, les parents Gaillard demandent leur remise en liberté devant la chambre de l'instruction. En garde à vue, Jean Gaillard avait expliqué être au courant du premier projet de son fils, faire assassiner Magali par un Géorgien. Il était ensuite revenu sur ses déclarations. Au sujet de l'alibi téléphonique destiné à couvrir son fils, le père de famille raconte que Jérôme est venu le chercher le matin, qu'il lui a donné des consignes et qu'il n'a pas eu le choix. Des parents qui auraient été mis devant le fait accompli n'auraient pas pu s'opposer au projet de leur fils. Jean Gaillard témoigne et déclare devant les juges. Devant Jérôme, on était impuissants. Si on avait parlé, il nous aurait massacrés. Il interpelle alors les proches de Magali Blandin, présents à cette audience. Eux le savent, dit-il. ils peuvent le confirmer. Vincent Gautronneau, journaliste au Parisien aujourd'hui en France, notre partenaire aujourd'hui dans cette heure du crime, là il y a encore une nouvelle étape dans ce dossier, c'est le pacte familial. Est-ce qu'on peut y croire ou pas, ou est-ce qu'il a fait pression sur ses parents, Jérôme Gaillard ?
Jérôme Gaillard, il a une autorité morale sur ses parents, ça c'est certain. Qu'il ait une emprise sur eux...
Et physique.
Et physique aussi, effectivement. Qu'il ait une emprise sur eux, c'est à peu près certain. Après, plus le dossier se dévoile, plus on se rend compte que les parents, ils savaient de fait beaucoup de choses. Ils étaient au courant de ce projet criminel, ils lui ont prêté avec les Géorgiens, ils lui ont prêté 50 000 euros... Est-ce qu'ils savaient exactement...
Ils peuvent effectivement le prêter pour le divorce, difficile.
En tout cas, ce qu'ils ont expliqué un temps, c'est que cet argent-là était prêté pour racheter les parts de la maison. Il s'avère que, il semble que les derniers interrogatoires montrent que les parents étaient en réalité au courant avant du projet et qu'ils ont donné de l'argent à Jérôme Gaillard après avoir eu connaissance de son projet. Est-ce qu'il savait ce qu'il allait faire de cet argent ? C'est difficile à dire. Sur le matin du crime se posent aussi beaucoup de questions. Jean Gaillard accepte de faire des recherches sur Internet avec le téléphone de son fils.
C'est pas forcément... son téléphone borne à un endroit où il n'est pas.
Son téléphone borne à un endroit, effectivement, c'est pas forcément très commun.
Et est-ce que cette alibi, finalement, il a vraiment éloigné quelque temps la manifestation de la vérité ?
Dans les premiers temps, les gendarmes étant assez convaincus de la thèse du suicide... la première piste des gendarmes, c'est le mari.
Oui,
une fois le suicide
écarté,
c'est toujours le proche, c'est toujours le mari. Mais effectivement, les premières choses qu'ils font, c'est qu'ils regardent son emploi du temps, où est-ce que son téléphone borne. Et son téléphone, il borne chez lui. Donc on peut penser qu'il a dit la vérité quand il disait qu'il était chez ses parents. C'est faux. C'est son père qui tenait ce téléphone, qui faisait des recherches sur Internet pour brouiller les pistes.
Et donc ça pèse lourd, évidemment, contre les parents et contre le père de Jérôme Gaillard. Maître Antoine Horry, vous défendez l'un des Géorgiens qui est mis en examen dans ce dossier. Est-ce que votre client ou ses amis, ses proches, est-ce qu'ils connaissent les parents de Jérôme Gaillard ou pas du tout ?
Pas du tout. Il n'y a aucun lien établi entre ce qui passe autour de Jérôme Gaillard, ou on va dire à côté de lui, c'est-à-dire sa famille, et l'autre côté, c'est-à-dire les Géorgiens. C'est complètement cloisonné.
C'est cloisonné, et à aucun moment ils ne se sont posé la question d'où pouvait venir l'argent. Hein, c'est simplement Jérôme Gaillard qui leur a remis cette somme, et puis point barre.
C'est ça.
Non, ça va pas beaucoup plus loin.
Oui.
Alors donc, il y a eu cet alibi, vous nous le rappeliez, Vincent Gautronneau, qui va un petit peu éloigner l'enquête, qui va en tout cas la ralentir. Mais c'est finalement Jérôme Gaillard en personne, lui, qui dit que ses parents sont un petit peu dans la boucle. C'est lui qui les...
C'est ça qui est extrêmement troublant, c'est qu'au moment où il est placé en garde à vue, c'est lui qui incrimine ses parents. C'est lui qui dit, qui évoque ce premier projet criminel avec les Géorgiens, qui n'a pas abouti, mais qui dit que ses parents lui ont prêté de l'argent et que ça a permis de savoir. Il dit oui, mais il ne savait pas vraiment, mais il se contredit beaucoup dans ses auditions.
Il y avait même un projet où il fallait simuler un viol. Hein.
Effectivement.
Il imaginera ça.
En tout cas, c'est ce que Jérôme Gaillard dit. Il dit que dans ses discussions avec le Géorgien qui devait mettre, selon lui, encore une fois, fin au jour de Magali Blandin, l'idée était de simuler un viol et un crime de rôdeur.
Qui aurait mal tourné.
Voilà.
Les parents du meurtrier présumé vont demander à deux reprises leur libération conditionnelle, deux fois refusée. Leur fils va être, lui, soumis à un long interrogatoire du juge d'instruction. Le jeudi 9 septembre 2021, Jérôme Gaillard est dans le bureau du magistrat instructeur. Il doit être notamment entendu sur l'implication possible de ses parents dans cette entreprise criminelle. Les investigations ont pu établir que son père avait bien fourni un alibi à son fils. Reste à savoir si le septuagénaire aurait cédé sous la pression. Le meurtrier présumé répète que ses parents n'ont rien à voir dans cette histoire. Il les aurait manipulés en leur faisant un chantage affectif au suicide. Il ne demande qu'une chose, que ses parents soient mis hors de cause, affirme son avocat, maître Jean-Guillaume Lemaintier. Selon l'avocat, Jérôme Gaillard aurait expliqué son geste après s'être retrouvé dans une impasse psychologique. Il était dans un brouillard, il était l'ombre de lui-même, mais aujourd'hui il y voit plus clair grâce à un long travail d'introspection, même s'il peine encore aujourd'hui à comprendre comment il a pu commettre un tel geste, estime l'avocat. L'enquête est encore loin d'être bouclée. Une confrontation entre Jérôme Gaillard et ses parents pourrait prochainement se tenir. Le meurtrier présumé sera également confronté aux autres protagonistes du dossier, notamment aux Géorgiens à qui il avait donné de l'argent pour qu'il s'occupe, entre guillemets, de son épouse. Vincent Gautronneau, journaliste au Parisien, aujourd'hui en France, notre partenaire aujourd'hui dans cette heure du crime. Quelles sont les échéances? Il va y avoir une confrontation assez rapidement, je crois.
Une confrontation qui est prévue normalement la semaine prochaine entre Jérôme Gaillard et ses parents. Jérôme Gaillard, lors de sa dernière audition, a tenté de dédouaner ses parents, parfois un peu maladroitement. On va voir ce qu'il va dire face à ses parents cette fois.
Ils sont très exposés, là, les parents, aujourd'hui. Hein. La chambre d'instruction a dit à deux reprises qu'ils ne sortaient pas de prison. Ils sont pourtant âgés.
Oui, effectivement, ils sont âgés, pas en très bonne santé, mais la chambre de l'instruction estime qu'ils sont... engagé à plein dans ce complot criminel qui avait été évoqué par le procureur. Il faut admettre qu'il y a beaucoup de choses troublantes dans leur rôle, dans leur implication. Des choses qui restent encore à éclaircir, notamment qui a acheté la chaux qui a servi à recouvrir Magali Blandin. On sait que les parents de Jérôme Gaillard en ont acheté pour leur jardin.
Oui, mais dans en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Dans le créneau qui correspond
mais dans
un
le
peu
créneau
au
qui
crime.
Peut correspondre au crime. Donc forcément, il y a encore beaucoup de questions qui doivent être posées. Ils ont plusieurs fois changé de version. Ils ont eux aussi mis du temps à arriver à la vérité. Ils ont défendu leur fils tout le long de l'enquête. Donc je pense que le juge a effectivement des points de vue à confronter.
Oui, et effectivement, c'est une confrontation qui sera de toute façon capitale pour la suite du dossier.
En tout cas, très certainement pour les parents. On peut penser aussi qu'il y en aura une entre les Géorgiens et Jérôme Gaillard prochainement.
On va poser la question à Maître Horry. Maître Antoine Horry, vous êtes en ligne dans l'heure du crime. Oui. Avocat de Guillaume, je crois. Hein, c'est un des mises en examen. Quel est le programme, si je puis dire, entre guillemets, de ce qui attend votre clients et les autres géorgiens?
Alors, ça, il m'est difficile de décrire ça très précisément, mais bien sûr, la confrontation entre les géorgiens et principalement mon client et M. Gaillard sera très certainement ordonnée dans le cadre de cette instruction, parce que c'est un peu le nœud du dossier, savoir dans quelle mesure Jérôme Gaillard a-t-il sollicité les géorgiens et dans quelle mesure ceux-ci l'ont aidé. C'est effectivement une des clés du dossier.
Alors, ils sont un petit peu en deuxième rideau, ces Géorgiens. Mais encore une question, Maître Horry. Il y a un d'eux qui va... Son téléphone va borner près du domicile de Magali Blandin. Ça veut dire qu'il y avait peut-être une volonté d'aller voir comment ça se passait, ou peut-être de l'attendre, ou de connaître son emploi du temps?
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est la personne dont on parlait, c'est effectivement mon client. Et ça, ce sont des explications qu'il a réservées au juge d'instruction. Mais il a une explication tout à fait cohérente et rationnelle à ça, et qui n'a rien à voir avec Magali Blandin.
Et qu'est-ce qu'il dit? Vous pouvez nous le dire?
Eh bien, très concrètement, il explique qu'en fait, il était sorti cette nuit-là, acheter des cigarettes, et c'est établi par certains éléments du dossier, certaines pièces qui ont été produites. Donc ça montre qu'il n'avait absolument aucun lien avec un quelconque projet criminel dirigé contre Magali Blandin lorsqu'il est sorti. Et je précise que c'était la veille... Magali Blandin est morte le 11 février, c'était le 10 février au matin, donc c'était plus de 24 heures avant.
C'était plus de 24 heures avant.
Alors, pas quelques heures avant.
Oui, ce que les enquêteurs ont peut-être pris pour une reconnaissance, ça serait, d'après vous, hein, moi je vous donne la parole évidemment, c'est une coïncidence, un hasard, il se trouvait là, ou peut-être il n'aurait pas dû se trouver, voilà.
Alors, c'est tout à fait une coïncidence, et ça, bien sûr, ça peut sembler étonnant, mais c'est vraiment un malheureux hasard pour lui, ce d'autant plus qu'encore une fois, Gaillard n'a jamais expliqué qu'il avait obtenu le concours des Géorgiens à cette période-là, c'est-à-dire au moment où il passait à l'acte.
Vincent Gautronneau, on va conclure cette émission avec vous, journaliste au Parisien, aujourd'hui en France. Est-ce que tout est clair dans cette histoire, ou bien est-ce qu'il manque des pièces?
Plus le temps passe, plus on se rend compte que les Géorgiens semblent avoir joué un rôle à la rigueur d'escroc. Les parents et Jérôme Gaillard, il reste des vraies questions. C'est surtout sur les parents de Jérôme Gaillard qu'il reste des vraies questions.
Oui, parce que ça suppose tout un montage en amont.
Il y a une réflexion. C'est un projet criminel qui est long. C'est pas un homme qui se réveille un matin et qui va assassiner sa femme. C'est un projet qui est mûri plusieurs mois. C'est un projet dont il a parlé à ses parents, qu'ils ne l'ont pas arrêté. Il y a encore quand même quelques questions dans ce dossier.
Merci beaucoup Vincent Gautronneau et Maître Antoine Horry d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.